criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, the dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories.
Dum dum.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Alors, faut pas croire, mais à Casa Perdusa, on dit du mal des séries, on le pense, mais pas que. Si on ne le dit pas, on pense aussi du mal des films, des livres, des gens, de leur famille, surtout la mienne, et de leur coupe de cheveux. Bref, on n'est pas juste limité aux séries. Preuve en est, cette saison, on a regardé plein de trucs sur nos écrans qui n'étaient pas des séries. Alors je vous rassure, c'était ni du sport ni du JT. Nous, on regarde que des trucs qui en valent la peine, comme un dessin animé sur un cheval dépressif, une série documentaire sur l'inculpation d'un homme peut-être innocent, une série documentaire sur la non-inculpation d'un homme probablement coupable, un dessin animé qu'on a regardé suite au conseil slash menace d'Iris, une émission qui a prouvé que ni Stewart ni Colbert n'étaient les meilleurs éléments du Daily Show, et quelque chose sur la vraie vie des femmes riches, blanches et aisées aux États-Unis. Alors, à la manière de John or Die, l'émission de Craig Ferguson sur The History Channel, notre panel de Perdusiens va débattre et se mettre d'accord sur deux productions qui s'affronteront en finale pour élire « C'est pas une série, mais… » Et comme c'est pas une tâche aisée, j'ai pas autour de moi trois Perdusiens, mais quatre. Nicolas.
Bonjour.
Iris.
Bonjour.
Fertis.
Oui.
Et Gégé. Alors vous allez me dire… dis bonjour Gégé, sois poli.
Bonjour.
Alors vous allez me dire à quatre comment va se passer le vote, Iris va avoir une égalité, etc. etc., etc. J'ai pensé à tout. Lors de la finale, non, lors de la finale, vous allez voter comme d'habitude en m'envoyant en message privé sur Twitter le gagnant, sauf que seuls les trois premiers votes seront pris en compte en cas d'égalité. Donc le plus long d'entre vous, Jérôme.
Ben, déjà qu'avec mon téléphone, je peux pas jouer à Pokémon Go parce qu'il est trop vieux, donc là je peux plus voter.
Eh ouais, encore un privilège d'un mec blanc qui passe à l'eau.
Il faut que tu votes pour
bah
la
je vote
série
maintenant.
Que tu retiens à la fin.
La série que je retiens ?
Ouais, d'accord.
Mais uniquement sur celles qui seront en finale. Ne vote pas tout de suite, Iris. Ne vote pas tout de suite. Pose ton téléphone. Pose ton téléphone. Pose ton téléphone.
Non, j'écrivais autre chose. J'écrivais totalement autre chose.
Ouais,
jamais,
c'est ça.
Jamais je prendrais une belle avance sur vous de cette manière.
On y croit.
Allez, pour commencer, on va...
faire un Pokémon, voyons.
Pour se venger, on va commencer par un truc que tu n'as pas regardé. Making a Murderer. Qui l'a vu ?
Amusez-vous bien.
Qui ne l'a pas vu ?
J'ai vu jusqu'à l'épisode 5.
Tu l'as vu en entier, Gégé ?
Je l'ai vu en entier, ouais.
Ah ! Eh ben c'est parti, Gégé. Explique-nous ce que c'est.
Making a Murderer, c'est une série documentaire de Netflix et diffusée sur Netflix. C'est réalisé par deux femmes. Et ça suit, en gros, une affaire qui a lieu au fin fond des États-Unis, où un homme est accusé d'avoir tué une femme, et on suit tout le procès, sachant que ça va montrer des graves dysfonctionnements de la police, de la justice, pendant 10 épisodes. Le gars va être condamné pour le meurtre de cette femme-là, sachant qu'en gros, cet homme-là avait déjà été condamné par la justice pour avoir tué une femme il y a une vingtaine d'années et libéré au bout de 18 ans parce que c'était une erreur judiciaire. Et quelques mois plus tard, il est à nouveau arrêté. À ce moment-là, il était en procès avec la justice américaine et donc pour pouvoir se payer sa nouvelle défense, il doit faire un accord avec la justice. Donc résultat, au lieu d'avoir 30 millions de dollars, il en récupère 400 000 dollars et grâce à cet argent, il peut avoir une défense à peu près potable.
Manque de bol.
Donc manque de bol, de toute façon, il est condamné quand même. Et en plus, ce qui a fait le gros intérêt de la série, c'est que son neveu est condamné aussi. Et son neveu est condamné sur la base d'aveux qui sont extorqués par la police de façon éhontée. Le type doit avoir 16 ans et être très très limité mentalement. Son avocat... le défend même pas et surtout l'enfonce et le pousse à confesser un crime dont on pense qu'il est innocent.
Vous étiez en manque de rectify, quoi.
Oui.
Ouais.
Alors là, tu viens de soulever un point que j'allais aborder. Making a Murderer, c'est formaté un peu comme une saison série télé. Sachant qu'en plus, Il va y avoir une suite.
Il va y avoir une suite, ouais. Puisque récemment, il y a un juge qui est revenu sur la condamnation du neveu, sachant qu'il y a eu 4 ou 5 appels différents. Enfin, ce qui est assez flippant dans cette série, c'est que ça montre vraiment un corporatisme terrible de la justice, qui est que contrairement à The Good Wife ou Law and Order, où dès que un avocat soulève un micro point de procédure qui n'a pas été respecté, le juge dit bon évidemment on commence ou la preuve est enlevée. Alors là, du début, enfin à chaque appel, tout est validé, toutes les erreurs de la police sont couvertes. Il y a jamais qui que ce soit qui met en cause ce qu'on fait ses confrères. Donc c'est très très flippant de ce point de vue là.
Mais c'est pas un peu perturbant cet aspect une saison sur cette histoire, parce que enfin ces deux femmes documentaristes étaient assez proches des familles. Et elles avaient expliqué que bah, pour pouvoir accéder à des images plutôt intimes, eh ben, elles ont quand même gommé quelques aspects qui rendaient la personnalité du personnage principal un peu plus trouble. Et du coup...
C'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je suis comme Pertis, je n'ai pas terminé. Je compte terminer ça justement pendant les vacances. Et qu'il y a un vrai questionnement sur... l'impartialité en fait du travail des documentaristes. Est-ce qu'elles ont fait un vrai travail d'information, ou est-ce qu'à un moment elles ont fait de la communication, c'est-à-dire que la famille a fait en sorte que ça devienne un personnage à part entière finalement, Steve
Avery.
Donc maintenant je dis ça, il faut que je termine. Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai trouvé ça long en fait.
Ouais, c'est
très, très long, c'est très très long.
Il y a un côté...
Ça, 10 épisodes, c'est beaucoup trop long.
Et là il y a un drame qui va survenir, et là vraiment il y a un drame qui va survenir. Et à la fin du deuxième épisode, fait ok d'accord, on voit où ça va. Mais franchement, justement, peut-être que le défaut c'est d'avoir voulu calquer ça sur 13 épisodes, alors peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en une économie d'épisodes plus resserrée, un peu comme The Jinx, ça aurait peut-être été beaucoup plus efficace.
Ouais, parce que là on sent qu'il y a un peu une délectation malsaine des deux réalisatrices qui on a l'impression qu'elles prennent aussi un peu de plaisir à montrer à quel point c'est l'horreur totale. Donc filmer les errements de la justice, oui c'est salutaire, c'est une bonne chose, mais là effectivement ça s'étire et on a l'impression quand même que elles en tirent une presque satisfaction. On a l'impression qu'à certains moments elles doivent se dire trop bien. Trop bien, la mauvaise décision a encore été rendue, on peut étirer ça sur un épisode.
Vous ne me donnez pas envie de finir en tout cas, si vous dites qu'effectivement c'est long.
C'était le gros reproche à faire. Et effectivement,
vous ne donnez pas envie de commencer.
Moi j'avais un souci avec le fait qu'on ne savait jamais trop quand est-ce que se passaient les scènes d'entretien avec la famille. On ne sait pas si c'est vraiment au moment où on nous montre le procès par exemple, ou ce genre de choses. On ne sait pas si c'est filmé le jour même, si c'est filmé après. Il y a très peu d'informations sur les dates dans le truc. Après, moi, je ne leur en veux pas non plus. Il y a un côté, on sent bien que c'est complètement à charge contre la justice américaine, qu'elles ont un propos et que ce n'est pas quelque chose qui est...
Et puis, c'est bien de défendre l'homme blanc, merde, quand même.
On le fait que trois ans, non ?
Oui.
Alors... Mais on y pense souvent, on se dit, mon Dieu, enfin, qu'est-ce que ce serait pour un noir
Alors, moi, j'ai pas pensé ça quand j'ai regardé le documentaire. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu gêné sur.
Est-ce que tu as déjà lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur?
Non, j'ai vu le film.
Bah, tu as ta réponse.
Ah, bah oui, bah après, on a vu. Made in America.
On va pas trop en parler maintenant,
oui.
Parce que c'est juste après. Je voudrais juste rester 2 minutes sur Making a Murderer, parce que Nicolas, t'as apporté le point de The Jinx. T'as aussi écrit un article récemment dans l'Express sur le KG Food, l'exécution d'un homme avec un retard mental, qui n'a a priori pas commis de meurtre du tout dans cette
Non, lui, il est victime de ce qu'on appelle la loi des parties, c'est-à-dire qu'il a été condamné en vertu d'une loi qui dit que si vous êtes complice d'un crime, vous devez être jugé à la hauteur de la même peine que celui qui l'a commis. Et comme le type qui était venu braquer un coffre d'une supérette a été condamné à mort, On a condamné au régime de la loi des parties son complice en disant qu'il aurait pu anticiper le crime. Là où c'est compliqué, c'est que le mec a un QI de 80. Donc anticiper un crime quand on a un QI de 80, c'est une histoire hallucinante qui va être exécutée le 24 août. Et si vous voulez tout savoir, je suis en train de courir après sa visiteuse de prison qui est d'origine française. Voilà.
J'aborde ce point parce que j'ai lu ton article, j'ai regardé Serial, j'ai vu The Jinx. La différence entre un article de presse et une série documentaire, c'est le temps qu'on va passer avec, avec les personnages, qui deviennent vraiment des vrais personnages. Et passer des mecs comme Adnan Syed ou James Avery en tant que personnage central, de facto, c'est en fait le héros. Et il y a quand même une partie de nous qui a envie que justice soit faite à notre héros et que notre héros, il est un peu... il est quand même un peu innocent.
Alors, ça, ce serait peut-être l'un des aspects très positifs de la série, c'est que le héros, s'il doit avoir un héros, c'est l'avocat de Steve Avery. C'est celui qui se bat contre... Steve Avery, il est vraiment très, très flippant. On peut penser quand même qu'il a commis le crime. Enfin, son neveu, on est à peu près sûr qu'il ne l'a pas commis. Steve Avery, c'est le côté... il est flippant, c'est la catastrophe, il l'a probablement tué, mais le problème, c'est pas là, c'est pas ça. Le problème, c'est que la justice n'est pas rendue comme il faut et que les enquêtes sont mal foutues. Et ça ne nous le rend pas... Le documentaire ne nous le rend pas sympathique. Le documentaire ne nous le rend pas sympathique.
Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Je trouvais que le documentaire... je suis d'accord avec toi sur le fait que le vrai héros, c'est l'avocat. Par contre, on n'insiste pas sur la potentielle culpabilité d'Avry. On montre quand même, la plupart du temps, les flics qui... on pointe du doigt les flics qui ont trouvé des preuves de manière un peu suspecte. On voit un gros montage de la part des flics. À aucun moment, la personnalité trouble d'Avry, comme tu dis, elle est affichée de manière claire. C'est pas du tout comme The Jinx, qui me pose un autre problème... beaucoup plus grave là-dessus, c'est...
le positionnement du documentariste.
Carrément, et puis qui
devient lui le héros, en fait.
Devient lui le héros, et qui s'assoit sur une preuve de culpabilité pour attendre son dernier épisode, son season finale, son series finale, pour balancer ça. Alors qu'une preuve de culpabilité comme ça, normalement, ça va directement aux mains de la police, j'imagine.
Ça, ouais, c'est vrai que c'est un gros problème.
The Jinx m'a posé un sérieux problème. Making a Murderer, c'était un peu étrange. Est-ce qu'une série documentariste sur un crime... c'est potentiellement le meilleur moyen de dépeindre ce genre de faits divers, ce genre de...
Il y en a qui tombent moins dans le problème. En tout cas, tu soulevais le cas de Serial et effectivement de Adnan Syed qui... j'ai pas écouté, mais il semble qu'il y a eu une espèce de suite dans laquelle on montre qu'il est possible que le personnage de Syed... au fur et à mesure de l'histoire, on objecte certaines choses et on oublie certaines choses pour se focaliser sur d'autres. Moi, j'avais vu l'été dernier The Staircase de Jean-Xavier Lestrade. C'est l'histoire d'un auteur de roman qui est accusé d'avoir tué sa femme. Elle est tombée de l'escalier et elle s'est cognée la tête plusieurs fois. On dirait le début, on dirait un épisode de The Practice, en fait, clairement.
Le premier épisode est flippant. Mais c'est le plus choquant, c'est le contraste entre le premier épisode et le début du deuxième épisode. Dans le premier épisode, on te présente le type comme très probablement innocent. Et puis le début du deuxième épisode, ça se passe quelques mois après, si je me trompe. Alors je me suis arrêté qu'au deuxième pour l'instant. Et on voit les changements d'avis des membres de sa famille sur ce type. En gros, on commence à découvrir sa personnalité.
Son passé.
Son passé, ultra noir, assez tendancieux.
Pour le coup, il y a un truc qui est vachement intéressant, et c'est Lestrade qui le disait, c'est que la personnalité de l'accusé fait qu'on n'arrive vraiment pas à savoir s'il est coupable ou pas, et ça nous renvoie à nos propres a priori qu'on a sur lui. Et c'est très différent justement par rapport à Steve Avery ou à d'autres personnages.
Mais Making a Murderer par rapport à Serial, par rapport à The Jinx, par rapport à The Staircase, c'est que la personnalité de l'accusé n'est pas du tout fascinante. Puisque là, pour une fois, c'est quelqu'un qui est pauvre, C'est quelqu'un, s'il peut se défendre, c'est parce qu'il y a eu une grosse erreur judiciaire et donc on lui a versé 400 000 dollars. Et donc c'est grâce à ça qu'il peut se défendre. S'il n'avait pas été, faussement accusé, ou en tout cas que ça avait été révélé par la justice, l'affaire elle aurait été réglée en deux secondes, il aurait été condamné en deux jours, on n'en aurait jamais entendu parler. Ça, c'est pour moi l'intérêt de Making a Murderer, c'est que pour une fois, on va s'intéresser à quelqu'un de pauvre. C'est très très rare, ces grandes séries documentaires, ça se joue toujours autour de gens qui soit sont extrêmement intelligents, soit sont extrêmement riches. Donc on peut faire durer des procès. Là, on se rend compte que la justice pour les pauvres, quoi qu'il arrive, on savait très déjà, mais là c'est encore pire que pour tous les autres. Ce qui se passe contre Steve Avery, ce ne serait pas produit contre Robert Durst ou des choses comme ça, puisque... il y a les avocats, il y a les médias derrière. Là, clairement, il se passe des choses parce que c'est une toute petite ville. Il y a un écho très, 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 très limité à tout ce qui se passe.
Donc, Iris, est-ce que ça t'a fait changer d'avis et te dire peut-être que je vais donner une chance à Making a Murderer?
Non.
T'as vraiment du mal à nous convaincre en ce moment, Jérôme. Hein. Donc, j'imagine que pour l'instant, on ne le garde pas pour la finale, Making a Murderer. Non.
Non.
Vous ne voyez pas, mais tout le monde hoche la tête. Puisqu'on parle de procès toujours sur un meurtre, on va parler de l'affaire O.J. Simpson, encore une fois, avec Made in America. Gégé, tu l'as vu?
Oui.
De quoi ça parle, autant que je mange un dragé?
Ça parle du procès d'O.J. Simpson, mais en gros, c'est recontextualisé, c'est-à-dire qu'on commence... c'est comme le font les storytellers américains, ils ont utilisé la petite histoire, petite avec des guillemets, puisque là c'est le procès de O.J. Simpson, pour parler de la grande histoire qui est la place des Noirs en Californie en gros. Et donc on commence avec, c'est quoi, c'est le début de la carrière d'O.J. Simpson, c'est ça?
Ouais, il retrace la façon dont il est devenu le premier athlète noir... ultra connu aux États-Unis, le premier à faire de la publicité, le premier à être aimé en fait par la communauté noire et la communauté blanche en même temps. Et ça manquait beaucoup dans la série. Hein. Cet aspect, moi, j'avais aucune idée du personnage que c'était. En fait, je savais qu'il était connu, mais j'avais aucune idée de l'impact que sa gloire avait eu en fait.
C'est posé d'ailleurs dès le premier épisode où le personnage de Marcia Clark, on lui dit « Mais qui c'est ce mec ?»« Ah oui, le mec des pubs Hertz !» Et c'est tout, oui. C'est résumé à ça, oui. Quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Alors que là, le premier épisode est vraiment crucial là-dessus, je trouve. Montrer à quel point il avait été une figure importante, ça m'a fait ouvrir les yeux, en fait.
Et tout ça, c'est mis en parallèle, sa carrière qui est présentée au début, est mise en parallèle avec toutes les affaires tragiques... qui peuvent arriver au noir par rapport à la police de Los Angeles.
Ouais, donc,
il nous montre un contexte de défiance totale de la communauté noire à Los Angeles envers la police, à raison. C'est extrêmement flippant et ça prend deux épisodes entiers avant qu'on parle du meurtre de Nicole Brown et de l'autre homme dont j'ai oublié le nom.
J'ai oublié son nom aussi, c'est horrible.
Keto Kenning,
non, Keto Kenning, c'est le pote de Jay. Mais pour revenir à ce que vous disiez, ce qui était très intéressant aussi dans ce documentaire, c'était le premier épisode, a aussi un contexte totalement historique, en expliquant comment la communauté noire est arrivée à Los Angeles, quels étaient les problèmes d'intégration dès le début de cette communauté au sein d'une ville principalement blanche. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on approche de la journée de la nuit du crime, on relate de plus en plus les faits divers qui ont eu lieu des jours avant le crime en relation avec ces frictions communautaires. Du coup, comparé à Making a Murderer, ici on a quand même une distance par rapport au temps. Autant Making a Murderer, c'est sur un fait divers qui est encore en cours d'actualité, autant l'affaire O.J. Simpson, elle est plus ou moins bouclée. Est-ce que pour ce genre de série documentaire, c'est pas un facteur qui rend la chose un peu plus facile?
Surtout ce que tu décris, c'est que d'un côté on a Making a Murderer qui est vachement dans l'émotionnel, dire mais comment on peut faire ça à cet homme? Franchement, il est victime du système, alors que Made in America, on est vraiment dans l'analyse du comment on en est arrivé là, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Il y a un vrai travail sur le temps, il y a un travail où on fait appelle finalement la réflexion du téléspectateur beaucoup plus, à mon sens, que dans Making a Murderer, oui. Où t'es en mode mais putain, mais c'est pas possible quoi. Et du coup, t'es vachement en empathie émotionnelle et tu réfléchis oui. pas énormément quoi.
C'est exactement ça, il y a une distanciation, mais en même temps, ils arrivent à faire en sorte qu'on s'implique dans l'histoire hein, qu'ils racontent, hein, mais sans, ils n'ont pas recours voilà, à des violons pour nous faire ressentir toute la tragédie que, c'est, que ce procès a été, le meurtre et tout ce qui s'en est suivi. Hein, c'était vraiment hyper bien fait. Et c'est quand même 5 épisodes de 1h30, donc c'est pas, c'est pas petit. Hein. Et 1h30, il faut les voir. Hein, et parfois, c'est dur parce qu'il y a des images violentes, il y a des interviews. Hein, qui m'ont donné les larmes aux yeux, mais c'est jamais dans la manipulation.
Donc on peut imaginer que ça reste en finale.
Oui.
Ah oui, oui.
D'autant qu'il y a le 5e épisode qui est pour moi le plus terrifiant de tous.
Je n'ai pas encore.
C'est la revanche des Blancs. Hein.
Oui.
O.J. Simpson est accusé, et là on voit moi j'en avais jamais entendu parler en fait de la suite de l'affaire O.J. Simpson, je me dois vraiment trop intéresser, mais là c'est vraiment la revanche des Blancs, hein. C'est effrayant ce qui se passe.
Iris, tu vas regarder?
Vous m'avez donné envie de regarder, oui, enfin j'avais déjà envie de regarder un petit peu, mais vous m'avez donné envie de regarder, effectivement.
Cool.
Tu vois, t'es pas si
vite que ça, j'ai dit.
C'est O.J. Simpson, Made in America.
Ok.
Allez, Iris, on te laisse la parole, parce que t'as pas trop parlé jusque-là. BoJack Horseman, c'est quoi? Pourquoi c'est bien?
BoJack Horseman, alors, c'est l'histoire d'un cheval qui, de retour dans les années 90, était dans un très célèbre TV show. Merci Delphine, chante, merci.
Alors, vous n'avez pas entendu, mais Delphine chantait le générique a priori.
Oui, voilà. Et qui maintenant est dans la cinquantaine, totalement dépressif, qui passe son temps à boire, qui ne fait rien de sa vie. Et tout à coup, on lui assigne une ghostwriter pour écrire ses mémoires. Et pour la compagnie Penguin Books, qui est au bord de la banqueroute. Et c'est très très... Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait regarder BoJack Horseman? Parce que c'est une très très belle série, hein. Tant du point de vue formel. On peut ne pas accrocher au style des dessins, comme c'était mon cas au début, mais pour la qualité de chaque personnage comme tel qu'il est représenté à l'écran, par exemple Cameron Crowe qui est dans la série joué par par un corbeau. C'est ce genre de petites attentions visuelles qui sont juste merveilleuses. Vraiment se moquer toujours de la réalité et prendre une distance. Non, vraiment, c'est une belle série formellement et c'est une belle série dans son propos. C'est le propos d'un mec qui, pour une fois, n'est pas un mec blanc vu que c'est un cheval. C'est un cheval brun. Donc il est riche, mais ce n'est pas un homme blanc, pour une fois. Il est en proie avec tous ses démons, et c'est très très beau à voir.
Joss Whedon expliquait qu'il a continué Buffy en format comics, principalement parce qu'il pouvait s'affranchir des contraintes d'une production d'une série télé live.
Oui, alors là, ils le font totalement. Donc, on peut citer dans la saison 3, il y a eu un épisode absolument incroyable qui se passe entièrement sous l'eau, et dans lequel il n'y a aucun dialogue. Et tout le long de l'épisode, on se dit qu'au début d'épisode, on s'inquiète, on se dit peut-être que ce format va vite devenir relou, mais non, on ne voit pas passer l'épisode, et c'est juste merveilleux, quoi. C'est une série qui se permet de maintenant, en saison 3, d'aller faire des choses très très loin, et qui les fait très très bien.
C'est très drôle, il y a énormément de... Moi, je passe beaucoup de temps à lire... Ce qui est à l'écran, en fait, les petits posters, il y a énormément de blagues très drôles qu'il faut aller chercher sur l'écran.
Ouais, il y a une attention visuelle permanente.
Et c'est vraiment très très drôle. Hein. Ils arrivent à faire venir Jessica Biel pour se moquer d'elle-même. J'étais mort de rire. Jessica Biel se joue elle-même en 2003. et elle part de sa carrière ratée, hein, en gros, mais avec tellement d'humour, mais c'est...
Et que Jessica Biel soit... Jessica Biel, c'était, sur le tournage, elle était là, mais allez-y, vous, je sais que vous pouvez y aller plus fort et que vous pouvez plus vous moquer, pousser au maximum. Et effectivement, c'est pousser au maximum, c'est très très drôle.
Et il se moque de Hollywood constamment, mais c'est vrai que...
Hollywood,
mieux fait qu'entourage, hein.
Ah oui,
chose à dire, hein. C'est que la critique d'Hollywood est beaucoup plus pertinente que dans Entourage. Tu me diras, c'est pas très dur.
Dans Entourage, oui. C'était une critique d'Hollywood. Moi, je croyais que c'était juste une série sur des meufs avec des gros seins qui se faisaient baisser par Adrienne Grenier.
Et ouais, il y avait ça surtout.
Gégé, Nicolas, vous partagez cet avis ?
Moi, je n'ai pas encore commencé. J'ai beaucoup de retard dessus, mais en tout cas, Iris l'a très très bien vendu, donc il va falloir que je trouve un moment. Et j'avais énormément entendu parler de cet épisode sous l'eau. Tout le monde était assez bluffé, quoi. Et c'est marrant que tu aies parlé de Whedon, parce que finalement, c'est l'un des derniers à avoir fait utiliser la télé ou en tout cas la boîte à histoire comme un espace expérimental vraiment. Depuis Urgence et Buffy, enfin, les années 2010 n'ont pas été hyper expérimentales par rapport aux années 2000, quoi.
C'est pas faux. GG.
Moi, j'ai une réserve sur la saison 3. Je trouve que... Mais oui, j'avais adoré les deux premières saisons. Mais le coup du mal-être du pauvre quinquagénaire blanc, ça commence à se voir, même si c'est un cheval.
Il est pas blanc.
Ouais. Oui, enfin, il est riche, bon, quoi. Voilà,
il est riche. Et, et j'ai trouvé que cette saison était moins réussie d'un point de vue de la description de son mal-être. Ça a commencé à me gonfler.
La manière dont les personnages lui ont fait face cette saison était très très bien. La manière dont tout lui retombe dessus finalement.
Moi, ça m'a moins intéressé cette saison. Peut-être que c'est parce qu'on est passé aussi de la critique de la télé à la critique du cinéma, puisque maintenant c'est les Oscars, c'est les machins. Ça m'a moins intéressé. La fin m'a extrêmement déçu, puisque on le voyait venir dès le milieu de la saison. Enfin, dès qu'il y a un personnage qui revient, on se dit bon bah ça y est, on comprend.
Moi,
ce qui se passe.
Moi, je suis pas d'accord. J'ai rien vu venir.
Moi, ça va. J'ai été un peu déçu par cette troisième saison. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir dire après. Je trouve que le traitement.
Bon, peut-être que j'ai moins vu les défauts parce que je l'ai binge-watché.
Ah, c'était ma question, vous l'avez vu comment ?
Non, moi aussi, je l'ai vu en 3 jours. J'ai vu ça en 3 jours.
Non, moi je l'ai regardé, j'ai eu un épisode de genre par semaine, donc j'ai été très raisonnable.
Ok, donc ouais, moi je pense qu'en ayant vraiment regardé ça en une journée, j'ai moins vu les défauts.
Ouais, moi j'ai vu le truc en 3 jours, donc je sais pas si le binge-watching a joué là-dedans. Effectivement, le quatrième épisode, il est dément. Il y a l'épisode en 2007 aussi qui est très très drôle. J'ai trouvé que c'était plus réussi sur le côté humour que sur le côté traitement des personnages. J'ai trouvé quand même qu'on laissait pas mal de personnages de côté dans cette saison. C'est vraiment beaucoup Bojack.
Princesse Caroline aussi quand même.
Et Princesse Caroline, c'est ça, en deux. Après les autres, ceux qu'on avait appris à connaître dans les deux premières saisons sont un peu éclipsés, hein, sont vraiment en arrière-plan.
Il y a un espèce de tournus pour les personnages auxquels on s'intéresse.
Oui, oui.
Princesse Caroline n'était pas forcément mise en avant dans les saisons précédentes. Ouais. Et ça a fait du bien. Moi, au contraire, ça m'a fait du bien qu'on soit plus centré autour des mêmes personnages, mais qu'on apprenne à connaître vraiment cet univers.
Et c'est qui les acteurs derrière les voix ? Parce que le casting paraît super impressionnant.
Amy Sedaris. Je n'ai que ça à dire.
Je crois qu'il y a Paul F. Tompkins.
Bien sûr qu'il y a Paul F. Tompkins.
Il y a qui d'autre ?
Ah oui, il y a du Raoul Esperza.
Il y a Barba qui fait la voix du mec de Princesse Caroline.
Il y a Margot
Martindale.
Non, mais il y a tout le monde. À part Will Arnett, c'est que des gens bien, tous ces gens.
Il y a Jessica Biel
dans son propre rôle, merveilleux.
Donc entre...
Et il y a Kristen Chiang.
Ah, ok.
Bon point de vente.
Donc... On garde la série face à O.J. Simpson pour l'instant ?
Non.
Ouais.
Ah, moi je préfère O.J. Simpson.
Ah ouais ?
Bon, bah pour l'instant, on la garde.
Moi je la garderai, ouais.
On la garde pour l'instant.
Ok.
Delphine.
Oui.
Full Frontal.
Ah, Full Frontal, Samantha Bee, hein. Elle est géniale.
Alors pourquoi c'est très très bien et pourquoi c'est différent du reste des talk shows du genre?
Oh là là. Bah déjà, c'est une femme, c'est la seule à avoir une émission de late night show comique comme ça à la télé. Donc on l'applaudit. Et c'est son billet. Et quoi dire d'autre à part qu'elle est géniale hein.
Alors, si tu sais pas trop quoi dire, moi j'ai des questions pour toi.
Vas-y.
Est-ce que tu penses pas que la personnalité de Samantha Bee a un peu changé quand elle a migré dans son nouvel environnement? Parce que moi je me rappelle de ses segments dans The Daily Show qui n'étaient pas tous politiques. Hein. Je me rappelle d'un de super segments sur le monde de l'entertainment. Elle avait des sujets assez assez vastes.
Ouais.
Et je trouve que la Samantha Bee de Full Frontal est plus punchy, mais moins légère. Est-ce que tu trouves que cette transition se passe bien? Est-ce que parce que c'est obligé de retravailler un peu son personnage entre le moment où elle est une simple chroniqueuse et quand elle porte son émission. Est-ce que tu trouves que cette transition se fait plutôt bien? Est-ce qu'elle est naturelle dans le poste ou
Moi, je trouve qu'elle est naturelle. J'ai pas senti vraiment de grosses différences entre la Samantha Bee de Full Frontal et celle du Daily Show. Je pense que c'est l'actualité aussi qui veut. L'actualité dirige un peu les thèmes de ses émissions. Elle va beaucoup parler des élections, c'est normal. Elle va beaucoup parler de tout ce qui va pas avec le Parti Républicain, c'est normal aussi. On verra peut-être après les élections si, si toutefois Trump ne devient pas président.
Non.
On verra si elle change de... C'est ça, on fait un signe de croix. On verra si elle change de thème. Mais j'ai pas senti d'adaptation de son personnage. Je trouve qu'elle est peut-être encore plus féministe qu'avant. Pas beaucoup plus, mais plus féministe qu'avant. Elle a beaucoup parlé des droits des femmes.
Et c'est pour ça aussi que Full Frontal est une bonne émission. C'est parce que c'est une des émissions les plus féministes qu'on a à la télévision. C'est une des rares émissions à consacrer autant de temps à des sujets féministes. Et c'est pour ça que c'est une série vraiment, enfin c'est un show vraiment important.
Oui. Et plein de petites piques
anti-patriarcat
et ça, on aime toujours.
Ouais.
Mais indépendamment de l'aspect féministe, on traite juste sur un aspect qualitatif. Qualitatif. Laissez-moi finir mon propos.
Ouais, ouais.
Sur l'aspect qualitatif de l'émission. Indépendamment de son propos, sur la pertinence de son écriture, sur. Je compare ça à l'émission de Larry Wilmore qui vient juste d'être annulée.
Ouais. Non, c'est beaucoup plus réussi que The Nightly Show.
Ouais, alors c'était mon point, c'était que en plus d'être féministe qui lui apporte une touche un peu différente, moi personnellement, je la trouve beaucoup plus pertinente et beaucoup plus drôle et beaucoup plus beaucoup plus punchy que même l'émission de John Oliver.
Oui.
Que Last Week Tonight.
L'émission de John Oliver. Quelle émission de John Oliver?
C'est pas Last Week
Tonight. Oui, mauvais John. Oui, non, oui, je suis d'accord avec toi sur ce point.
Moi, c'était la grosse surprise de...
perdu dans son aspect un peu gimmicky.
Exactement.
Et Full Frontal, c'est comme elle le dit, Full Frontal, c'est pas gimmicky, ça a encore cette fraîcheur, peut-être que c'est la fraîcheur des débuts, mais ça a encore cette espèce d'aspect où la série veut vraiment nous mettre le nez dans quelque chose et pas juste nous divertir.
Là aussi où j'ai trouvé particulièrement remarquable, c'est que dès la première émission, c'était réussi. J'ai pas senti de période d'ajustement. Elle a un peu évolué en présentant le squad de Samantha, l'équipe de Samantha Bee. Du coup, ça... On arrivait avec sa personnalité à elle et puis maintenant on découvre une vraie équipe derrière et on est content de les voir. Mais ce qui m'a vraiment épaté, c'est que c'était très bien dès les premières minutes.
Oui.
Et que depuis, il n'y a pas un épisode qui était foiré où elle est passée à côté de son propos ou en gros, elle n'est pas limitée à parler que bien de sujets féministes.
C'est
je la trouve vraiment remarquable. Elle est vraiment légitime dans tous les sujets qu'elle aborde.
Oui,
on est d'accord.
Bon,
ça semble te surprendre qu'une femme puisse être légitime dans tous les sujets qu'elle aborde.
Non, ça me surprend pas. Le truc qui me surprend, c'est que ça n'a pas été fait avant. Parce que.
Sarcasme.
Non, enfin, le truc qui m'a vraiment, la raison pour laquelle ça m'a vraiment étonné, c'est que je pensais que ce serait comme l'émission de Seth Meyers, que j'aime beaucoup, mais qui après 3 mois, et c'est l'aspect quotidien qui joue énormément, a eu besoin d'une période d'ajustement. Même quand il a voulu recadrer un peu en changeant son monologue, en le rapprochant plus d'un Weekend Update, bah, il a perdu la fraîcheur qu'il avait dans SNL. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'était vraiment que l'émission de Samantha Bee soit parfaitement produite dès le début. Larry Wilmore, j'ai eu beau essayer, j'ai eu beau donner sa chance, bah, ça ne me fait pas grand-chose que l'émission soit annulée. Donc on est d'accord qu'on la laisse en finale.
Oui.
Oui.
Ouais. Et du coup, on dégage le cheval.
Oui.
Oh non.
On dégage le cheval ou O.J. Simpson ?
Le cheval.
Ouais.
Non, d'accord, ok, le cheval.
Bon. Alors là, on va aborder un sujet un peu épineux, un sujet qui me fait peur.
Je vous laisse le cheval pour cette raison-là.
C'est parce qu'il y a Rick et Morty qui arrivent. Hein.
Oui.
Bah oui. Rick et Morty. Iris, on te laisse ce soin de nous le vendre. Sois gentil avec nous, sois gentil avec les personnes qui n'ont pas regardé les...
Alors, Rick et Morty, c'est la série d'une version décalée de Doc Brown et de Marty, de Retour vers le futur. Sauf que là, c'est un grand-père et son petit-fils de 14-15 ans. Le grand-père qui retourne dans sa famille après des années d'absence, qui est un scientifique de génie qui voyage entre les mondes et les univers, et qui est plus ou moins alcoolique, qui est très vulgaire, qui est... tout ce qu'on aime, quoi.
Breton, quoi.
Et qui va donc faire partir dans des aventures avec Morty, son petit-fils. Mais au-delà de ça, au-delà d'une série... C'est une série vraiment très, très drôle. Mais au-delà de ça, c'est surtout une série très, très triste. Elle parle de la famille d'une manière dont peu de séries savent parler de la famille. Elle nous montre vraiment que la famille, ça peut... C'est des bons et des mauvais souvenirs, c'est du bon et du mauvais, et c'est vraiment une très belle série sur ce point-là. Et vraiment, enfin, on pourrait s'arrêter à son côté humoristique, parce que le côté humoristique est très très bien réussi, mais ses épisodes sombres sont d'une beauté mais lancinante.
C'est mieux géré que Community sur ce point ?
Oui, largement. Community, je sauverais que en disons que je sauve sur les 20 et quelques épisodes de Community par saison, j'en sauve disons 8 par saison. Là, pour la plupart des saisons, j'en garde 8 à 12.
Mais c'est la sœur jumelle cachée
là,
de Iris, c'est pas la vraie.
J'élimine peut-être 2 épisodes par saison maximum.
Alors là, tu réalises même pas à quel point tu as choqué ton historien.
Si, je ne veux pas réagir comme ça, je ne veux pas tous être choqués. Non, j'aime Community pour des raisons particulières, pour des raisons qui me sont propres, et qui font que j'aime peut-être Community plus que Rick and Morty. Mais Rick and Morty est meilleur que, bien meilleur que, est largement meilleur que Community. D'accord. Community a beaucoup de défauts.
Oh mon Dieu, on l'a enregistré.
Théorie, tu as conscience que tu vas te réentendre dire ces choses-là et que...
C'est ça.
Vous croyez vraiment que je réécoute les podcasts?
Mais nous, on saura.
Ceux qui ne sont...
Non, mais j'ai jamais été aveugle au défaut de Community. C'est juste que, pour moi, dans mon cœur, c'est toujours une série qui méritait un A parce qu'elle me faisait tellement de bien que je ne pouvais pas lui donner une autre note. Mais j'ai jamais prétendu que c'était une série parfaite à tout point de vue.
Pour ceux qui ne sont pas Iris, Rick and Morty, c'est aussi bien qu'Iris le dit.
Voilà, moi j'ai vu que le premier épisode.
Je te déteste.
Je suis désolée, j'ai pas continué. Je sais. En plus, c'est sur Netflix.
En plus, j'ai pas aimé le premier épisode de Rick and Morty.
Et ben, il faut que je continue parce que le premier m'a pas.
Qu'est-ce qui t'a bloqué ?
J'ai tellement pas aimé le premier épisode de Rick and Morty que je l'ai vu, et pendant des mois, à chaque fois quelqu'un me demandait mon avis sur Rick and Morty, la nouvelle série de Dan Harmon, je répondais que je me la gardais pour l'été.
Ok, d'accord, donc je me sens moins coupable, alors ça va, faut juste
ça m'a pris, que... ça m'a pris des mois, le pilote m'a dégoûté de la série pendant des mois.
Le pilote est pas bon du tout. Hein.
Non, le pilote est très mauvais, le pilote est catastrophique.
Ok, bon bah je donnerai sa chance, alors promis.
Gigi, t'as vu
c'est,
plus que
c'est une série tellement bien que je l'ai fait découvrir à ma maman qui a adoré.
Ok.
Oh.
Et on s'est tout binge-watché en une journée.
Ok.
Enfin, toute la première saison.
Et Gigi, tu l'as binge-watché? Tu l'as regardé?
Ouais, je l'avais regardé l'été dernier, mais j'en ai que de très très vagues souvenirs. Je me rappelle que c'était pas complètement mauvais.
Tu vas nous la tuer. Hein.
Non, non, mais là, c'est... Non. Très très dur de justifier Iris de garder...
Non, mais c'était pas mal.
Vous savez qu'elle est dans le top 10 annuel, hein?
Non, mais oui, c'était pas mal du tout, je crois, le souvenir.
Mais comment ça se fait qu'elle est dans le top 10?
Ah, GG, ça fait
un... Non, j'ai pas mis un A. Non, j'ai pas mis un A, Rick et Morty, c'est sûr.
Je ne sais pas.
Oh, mon Dieu.
Bon, pendant que tu vérifies. Nicolas, à ton avis, est-ce que Rick et Morty devrait rester en finale avec Samantha Bee et O.J. Simpson?
Je suis comme Pertus, j'ai vu que le premier en fait, et j'ai été totalement rétif.
Putain, mais je vous déteste.
On a essayé.
T'inquiète pas, moi, Iris, j'ai jamais rien vu de Rick and Morty.
Combien de séries mauvaises vous avez regardées juste pour pouvoir les... de combien de séries mauvaises avez-vous regardé les 4 premiers épisodes juste pour pouvoir les noter dans le tableau de Perdusa?
On n'est vraiment pas comme ça.
Ce serait vraiment très mal de connaître.
Tu mets en cause la probité de la rédaction.
Waouh!
Oh là là! Ah, c'est pas...
Je suis outrée.
C'est pas...
Mais pourquoi Nicolas t'as pas aimé? Pourquoi Nicolas t'as pas accroché au premier épisode?
J'ai pas aimé l'univers visuel déjà à la base, c'est pour ça... C'est quelque chose. Autant tu vois, BoJack Horseman, je trouve que c'est bien fait. Il y a quelque chose qui m'attire. Autant là, après, c'est vraiment purement subjectif pour le coup. Et les arguments d'Iris à chaque fois sont très bons dans les différents papiers que t'as fait, dans les prises de parole que t'as eues sur le sujet. C'est pour ça que je me dis que je loupe quelque chose. Mais il y a un côté vraiment non quoi, juste non.
Mais essaie de dépasser le premier épisode, vraiment.
Alors, et si on prenait le premier à l'envers, est-ce qu'on est obligé de voir ce premier épisode?
Bah non, recommencez directement à l'épisode 2, si vous voulez.
Ah, ok.
Ouais, ou au season finale de la saison 2.
Non, parce que dans la saison 1, il y a d'excellents trucs. Enfin,
comme ça, vous regardez
qu'un épisode. La série, il y a des épisodes... Et il y a des épisodes féministes très drôles, enfin...
Si, il y a un très très chouette épisode. C'est celui... Non, j'ai le meilleur souvenir, c'est l'épisode
le sixième épisode de la saison 1.
Non, mais il y a des franches réussites dans cette série.
Ok, franches réussites, puis... mais pour l'instant,
mais
on reste avec
comme le
OJ et Samantha en finale.
Ah non, je refuse, Rick and Morty doit aller en finale.
Tu réalises qu'il n'y aura qu'un seul vote. Donc dans tous les cas, elle va perdre. Est-ce que tu préfères... ne pas attendre l'année prochaine un autre podcast où Rick and Morty aura plus de chances de gagner, ou tu veux vraiment insister pour que Rick and Morty soit en finale maintenant pour être éliminé lamentablement contre Jay Simpson?
Parce que là, sincèrement, la seule chose qui porte préjudice à Rick and Morty, c'est le temps depuis lequel on l'a pas vu, parce que je t'assure, GG, que t'étais vraiment très très enthousiaste sur la série quand elle s'est terminée.
Non, mais depuis, j'ai vu des meilleures choses comme Full Frontal ou Made in America.
Qui font plus l'unanimité, malheureusement, Iris.
Je suis pas d'accord. Full Frontal, c'est pas meilleur que Rick and Morty.
Il y a moyen de mettre mute sur la petite case d'Iris.
Non, on peut simplement raccrocher.
Allez, on part sur un autre sujet très difficile. Il a failli froisser cette rédaction. Il a failli la couper, un peu comme Civil War, l'univers Marvel. Il y avait des Team GG et des Team Fertis. The Real Housewives. L'objet de la querelle, celui par qui votre clash a commencé. Hein? Fais pas ces yeux comme ça, le podcast des 10 ans de Perdusa.
Ah, mais j'en ai aucun souvenir, donc...
Ah bah oui!
On avait un petit peu bu. Non, mais tu sais, oui, je commençais à défendre Real's Wife en disant que c'était féministe et tu m'as pas cru.
Le féminisme et Real's Wife, take two! Go!
C'était féministe, Real's Wife?
Oui, non, mais c'est bon, j'avais bu aussi. J'ai trouvé que c'était...
Attends, j'enregistre absolument tous ces podcasts en étant complètement high et toi tu me dis que c'est... Tu peux pas invoquer
cet argument, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais je, en plus, j'y tiens, cet argument. Je sais que ça tient pas très... ça tient pas la route, mais c'est pas grave.
Reprenons les choses depuis le début. Real Housewives, donc c'est une franchise de télé-réalité sur le quotidien de femmes riches.
Oui.
Ok. Il y a des variations sur des femmes riches qui habitent dans plusieurs villes des États-Unis. Déjà, est-ce qu'elles ont chacune leur identité propre? Est-ce qu'il y a un effet de redite? À quel point vous avez envie de baffer Andy Cohen? Go!
Vas-y, Delphine.
Yeah, oh là là! Alors, déjà, elles ont toutes leur identité. Toutes les franchises ont leur propre identité, selon la ville, selon les personnages. Andy Cohen est insupportable, mais tolérable, parce que finalement, on voit que pendant les réunions, donc voilà. Quoi d'autre?
C'est quoi la meilleure émission de la franchise?
Cette saison, c'était Beverly Hills.
Ouais. Pourquoi? C'était celle avec Lisa Rinna?
Oui.
Oui.
Alors rappelez-nous pourquoi maintenant vous êtes sobre.
Ben parce que c'est en gros c'est encore plus subversif sur la télé-réalité que ne l'est Unreal. Je ne sais pas si vous avez vu la saison 2 de Unreal, mais c'était tout pourri.
J'ai arrêté.
Je retire les propos que j'ai eus dans le dernier podcast.
C'était si nul que ça?
C'était si nul que ça.
Ok.
C'était un peu prévisible que ça devienne fin.
Et
moi je trouve que c'était assez prévisible que la bourruche parte en sifflant avec Unreal. Enfin, j'avais adoré le pilote et puis très vite on voit que la perspective de faire durer cette histoire-là, ça allait soit on allait soit retomber dans des schémas très avec des personnages qui allaient vachement s'adoucir, soit ça allait partir dans le n'importe quoi. Et finalement c'est l'option B quoi.
Et ce qu'oublie Unreal, c'est que les candidates, elles ont une personnalité et avec Real Housewives of Beverly Hills, on voit, on comprend à l'image les conflits qu'il y a entre les candidates, la production derrière, la gestion de leur image, la façon de raconter l'histoire. C'est une expérience assez fascinante. Alors, je ne dis pas que je regarde uniquement Real Housewives et je trouve ça bien parce que j'ai l'impression de lire ça au 17e degré et de découvrir des choses. J'adore quand elle se hurle dessus, qu'elle se lance du vin sur la figure, qu'elle se pousse dans les piscines et tout.
Ça, c'est juste l'angle.
mais à côté de ça, c'est fascinant de voir des nanas qui luttent pour écrire l'histoire de la façon dont elles ont envie d'être perçues. Et à la fin, les réunions, c'est aussi pour ça que c'est passionnant. C'est parce que là, elles s'explosent à la tronche en leur disant « Ouais, mais... t'as voulu raconter ça, t'as menti ça, t'as voulu passer pour la fille sympa à la télé, mais en fait... ça déconstruit, les réunions déconstruisent un peu ce qu'on a vu auparavant. C'est assez fascinant.
Et il n'y a pas de l'effet de lassitude, malgré le nombre de franchises, le nombre de saisons, le nombre...
C'est de mieux en mieux.
Jamais.
C'est de mieux en mieux.
Oui. En fait, à partir du moment où ils ont trouvé les bons personnages... Hein. Tu peux être assuré que la saison sera bien.
D'accord.
Sachez que je suis absolument dégoûtée d'entendre Gégé aussi enthousiaste sur Real Housewives et pas sur Rick and Morty. Et que je vous en veux, sincèrement, je vous en veux du fond du cœur de ne pas avoir regardé Rick and Morty. Je vous en veux énormément.
Désolée.
Moi, je suis pas si désolée que ça.
Désolée, vous allez regarder.
Oh la vache, la culpabilité.
Mais dans Real Housewives, on voit, il y en a qui ont un talent pour ça. Il y en a qui savent, Nini Leakes, Lisa Vanderpump, Bethany Frankel. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles sont un peu dans le contrôle. Ce qui est marrant, c'est de les voir justement parfois perdre le contrôle. Ça, c'est rigolo. Et puis après, de voir ce qu'elles essayent de faire pour redorer leur image. Non, c'est... Moi, je trouve ça une expérience... Ça marche sur tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau le plus basique qui est... on aime bien voir des femmes se hurler dessus. Et des niveaux un peu plus rigolos de... Ah la vache, ce qui doit se passer en coulisses, ce qu'elles essayent de cacher, etc. Je trouve ça très, très chouette, surtout à notre époque, des réseaux sociaux, de la maîtrise de l'image qu'on veut donner de soi et ce genre de choses. Je trouve que c'est... On disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérimentation dans la narration. Je trouve que Real Housewives participe d'une grande expérimentation de réseau social filmé.
Je suis épaté parce qu'il est en train de me vendre un truc que j'ai envie de voir là tout de suite. Alors que bon, à la base,
Il est très très
Oui, mais moi aussi, je t'ai vendu un truc que t'avais envie de voir, non?
Ouais, mais c'est mal dessiné. Sinon, je plaisante. Ouais, hein.
Il trouve que les lèvres de Liz Arena sont beaucoup mieux dessinées que le siècle de Rick and Morty. En rendant visite à Delphine il y a quelques années à Brighton, j'ai acheté un bouquin là-bas qui s'appelait Everything Bad is Good for You. C'était un bouquin sur qui explique pourquoi les jeux vidéo, la télé-réalité, tout ce qu'on dit qui est mauvais pour nous est super bon pour nous. L'idée de la télé-réalité, c'était que on a un nouveau rapport avec la réalité et qu'on développe non pas un quotient intellectuel, mais un quotient relationnel. En gros, le téléspectateur peut se dire « je regarde de manière critique ce que je suis en train de voir et je déconstruis les rapports et les codes de la télévision » en disant que si cette personne fait cette action, c'est parce qu'elle sait qu'elle est filmée et non pas parce que c'est une simple narration de l'histoire. Là, tu disais que dans les épisodes de réunion avec Andy Cohen, l'animateur, on revenait sur ce qui s'était passé et puis on déconstruisait cet aspect de télé-réalité. Est-ce que quand on regarde un épisode, on a aussi cette vision de bon, ça c'est totalement faux, le sentiment paraît réel. Est-ce qu'on regarde avec un œil, on arrive à bien distinguer quand on cherche à nous manipuler, ou est-ce que l'émission est plutôt bien foutue et que du coup on n'a pas du tout cet aspect, on suit ça comme une entre guillemets comme une série, on attend l'émission d'Andy Cohen pour tout décortiquer. Est-ce qu'on a les armes pour décortiquer au fur et à mesure où on regarde l'émission?
Oui, je pense, oui.
Ok, nickel, je suis super content de la question.
C'était une question super construite. La réponse a été
ouais, je pense, ouais. Nickel. Ouais,
Moi, je trouve votre enthousiasme totalement hors de proportion.
Ça te rassure si je dis que pour moi, leur enthousiasme face à Real Housewives est autant de proportion que le tien face à Rick and Morty?
Est-ce que tu as vu Rick and Morty?
Non, mais j'ai pas envie de voir Real Housewives non plus. Bon, dans tous les cas, on sait qu'elles sont sympas, c'est Housewives, mais elles restent à la maison, elles sont pas en finale.
Ah bah si.
Ah bah non.
Un Delphine.
Ah oui, elles sont beaucoup.
Non, elles sont absolument pas en finale.
Nico?
Bah non, quand même pas. Enfin, quand on voit les deux
premiers... Alors, si elles étaient en finale, Delphine et Jérôme, elles devraient dégager qui? Elles devraient dégager O.J. Simpson ou Samantha Bee?
O.J. Simpson.
Vous rigolez ou quoi? Vous avez vu quoi?
J'ai vu la série, je refuse que Real Housewives aille en finale.
What the what?
Ok. Donc, bien sûr. Pour la finale, on a Made in America et...
Vous avez Made in America. Et vous avez Full Frontal.
Ah non, ok.
Go, envoyez-moi par message privé le vote. En attendant, il y a Ethan sur le forum qui nous est revenu sur notre premier podcast. Et il a monté un truc qui est assez intéressant sur qu'est-ce qui est le plus important, le thème d'une série ou sa qualité. La question, c'était face à une série qui est bien foutue, qui est originale.
Attends,
qui est...
tu peux répéter la question?
Ok. C'était quoi le plus important dans une série? C'est son propos, même si c'est maladroit, ou la qualité intrinsèque d'une œuvre? En gros, American Crime, malgré ses défauts, est-ce que, de par son thème, reste plus important qu'une série comme Game of Thrones, par exemple, pour un...
Oui, mais est-ce qu'on élit des séries les plus importantes ou les séries qui, nous paraissent les plus importantes?
Les plus importantes, qui, par leur thème, abordent des sujets qui ne sont pas nécessairement abordés et qui ont besoin... Exactement.
Mais est-ce que ça dit beaucoup du rapport à l'argent, de la société consumériste,
Donc vous n'avez aucune opinion.
Cette mauvaise foi, c'est monstrueux.
Ayant voté
pour Artificiel, on est super superficiel. Il faut se l'avouer, il faut vivre avec.
Voilà. Ayant voté pour American Crime,
je ne suis pas superficielle, je suis la seule à avoir dit non à une série.
Alors, il me manque un vote.
Oui, c'est moi, j'ai décidé de ne pas voter pour boycotter.
Tu as décidé de boycotter ce vote?
Quoi?
Tu as décidé de boycotter ce vote?
Tout à fait, j'ai décidé de boycotter ce vote.
Eh bien, grâce à toi, il y a un 2 contre 1. Le premier vote que j'ai reçu, c'est Full Frontal. J'ai reçu Made in America. Encore une fois, Delphine et Jérôme, soit vous avez voté ensemble.
Mais pas du tout.
Soit vous avez voté l'un contre l'autre.
Hein ? Mais on a forcément voté les
pommes. Et bien sûr que vous avez voté ensemble et que la gagnante c'est Samantha Bee.
Je suis tellement fière de nous.
Donc, comme c'est quoi ?
Full frontal.
Ah, cool.
La magnanimité
cool,
de
cool.
Bon, et là, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Nous on va préparer le podcast suivant. Ce sera
Je vous déteste.
Enfin, le podcast sur les annulations qu'on vous avait promis depuis le premier numéro. Oui. Et ben, on se retrouve très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Ouais, il a duré un peu plus longtemps que ce que t'as prévu.
Non, on n'est qu'à 54 minutes.